Mémoire vive,
présenté par Antoine Mercier
et préparé par Rachel Rimer, une émission de RCJ avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Bonjour à tous, peut-être avez-vous regardé jeudi soir sur France 2 la première partie du remarquable documentaire de Michael Prasant qui s'intitule Einsatzgruppen, les commandos de la mort. Et si c'est le cas, eh bien je parierais volontiers que vous ne raterez pas la seconde partie qui va être diffusée jeudi prochain, donc ce jeudi également sur France 2 en deuxième partie de soirée. Les Einsatzgruppen, qu'il faudrait sans doute traduire littéralement pour rester fidèle à cette langue cryptée qu'affectionnaient les nazis par groupe d'intervention, ce sont ces commandos créés au moment de l'attaque allemande en Union soviétique, spécialement destinés donc à exécuter les opposants, plus largement tous les ennemis potentiels parmi les populations civiles des régions qui devaient être envahies, et l'objectif, ce soldat par l'assassinat de près d'un million et demi de juifs. 3000 hommes au total dans ces commandos, répartis en quatre groupes d'action qui opéraient chacun sur une zone géographique, pays baltes au nord, Biélorussie, Ukraine du Nord et Ukraine du Sud. Leur histoire est finalement moins bien connue que celle des camps d'extermination de Pologne, mais elle s'inscrit, on va en reparler avec notre invité tout de suite, au cœur même du projet nazi de destruction des Juifs d'Europe. Michael Prasant, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc écrit, réalisé, commenté ces trois heures de documentaire divisées donc en deux parties. La première diffusée jeudi dernier, qui est intitulée Les Fosses, qui couvre donc une période qui va de juin à décembre 41, et puis la seconde qu'on pourra voir jeudi prochain, que vous avez appelée Les Bûchers, qui va de 42 à 45. Question générale pour commencer, pour bien comprendre qui vous êtes aussi, comment vous en êtes venu à vous engager dans ce très impressionnant travail.
C'est venu il y a plus de deux ans maintenant. J'étais en tournage sur un autre film. Plus éloigné à la fois dans l'histoire et la géographie, puisqu'il s'agit du massacre de Nankin, qui a eu lieu en 1937. Les armées japonaises, massacrent les habitants de la capitale de l'époque, qui est Nankin. Il y a entre 150 et 300 000 victimes en trois semaines. C'est un massacre effroyable. Et c'est en racontant et en allant d'abord voir les victimes chinoises à Nankin et ensuite en retrouvant et en interviewant les bourreaux japonais, que j'ai cette révélation, si on veut, et je me dis, voilà, l'événement est plus ancien, et pourtant, les survivants parlent, et les bourreaux également. Pourquoi ce travail n'a-t-il jamais été fait sur l'extermination qui a été perpétrée à l'Est, et qu'effectivement, on connaît assez mal? Peu après que j'ai commencé à m'intéresser au sujet et à faire un premier projet, un pré-projet écrit qui avait été immédiatement remis à France 2, sortait Les Bienveillantes de Jonathan Little et ressurgissait aussi par les travaux du Père Desbois cette extermination qui a eu lieu durant l'opération Barbarossa. Et tout cela a certainement favorisé aussi, évidemment, à la réactualisation du sujet et en même temps la possibilité pour moi de convaincre producteurs et chaînes de télé de s'engager dans ce film long, difficile et coûteux.
Combien de temps de travail ?
Deux ans, à peu près, un peu plus de deux ans.
On va parler des conditions de fabrication de cette œuvre documentaire. Bon, on va redonner tout de même quelques éléments du contexte historique. Je le rappelais, vous l'expliquez au début du film, qui est vraiment très, très clair pour ça aussi, qui est un film historique d'une certaine façon. Les Einsatzgruppen donc, furent constitués au moment de la préparation de l'invasion de l'Union soviétique, fameuse opération Barbarossa dont vous parliez, 21 juin 41, même si, comme souvent dans la phraséologie allemande, la terminologie va demeurer très bureaucratique, cryptée. Objectif, c'est, au départ, il est tout de même clairement fixé, malgré cette langue, c'est d'assassiner les Juifs d'Europe de l'Est. C'est un peu la thèse, une des thèses de votre documentaire, c'est qu'au départ, il s'agit bien de cela et pas uniquement, qu'il y a une intention précise. On revient sur ce fameux débat de l'intentionnalité. Il y a une intention précise de faire cette extermination-là dans les pays d'Europe de l'Est.
Il y a une intention extrêmement précise. Il s'agit de nettoyer l'espace vital qui est réservé au Lebensraum, c'est-à-dire effectivement tous ces territoires de l'Est qui vont de la Pologne à la Russie. Et ce nettoyage-là, il est très clairement dit, si ce n'est dans un ordre qui descend, si vous voulez, de l'administration nazie au commando sur le terrain. En tout cas, il est très clairement énoncé dans tout ce qui remonte, c'est-à-dire les rapports des Einsatzgruppen, les rapports journaliers, où là, on donne tous les jours la liste du nombre de juifs exécutés et du nombre d'opposants politiques. Ça va, en gros, des prisonniers soviétiques, aux commissaires politiques ou supposés tels, c'est-à-dire en fait aux opposants communistes au Reich. Mais dès les premiers rapports, ce sont les juifs qui sont visés, et d'ailleurs les premières exterminations entre guillemets qui ont lieu sont le fait des pogroms intentés par les nationalistes locaux, qu'ils soient ukrainiens, lettons, lituaniens, et encouragés, manipulés en sous-main par les Einsatzgruppen. Donc tout cela est extrêmement cohérent, et je tiens aussi à préciser que le terme de Einsatzgruppen n'est pas né au moment de Barbarossa, mais un an avant, dans la Pologne dépecée et occupée d'une part par l'Allemagne nazie et d'autre part par l'Union soviétique. Et là, on a un laboratoire de cette extermination par fusillade, puisque déjà, ces premiers commandos Einsatzgruppen en Pologne pratiquent des premières exécutions de juifs. Donc il est très clair que lorsque les Einsatzgruppen sont envoyés à la suite des armées au moment de l'opération en Barbarossa, des armées de la Wehrmacht, il est très clair que leur mission est d'exterminer tous les juifs, en tout cas dans un premier temps, tous les hommes juifs en âge de porter une arme, c'est-à-dire entre 16 et 65 ans.
Alors, on voit d'ailleurs sur une carte le résultat, hein, zone Judenfrei, notamment inscrite par les Allemands dans les Pays-Baltes.
C'est le fameux rapport Jäger de décembre 1941. Oui, pour la première fois, effectivement, l'Einsatzgruppe A, sous la plume de Karl Jäger, l'un des principaux membres des commandos Einsatzgruppen du groupe A, fait parvenir ce rapport au RSHA, où il y a une carte, et sur cette carte, symbolisée par des cercueils de plus ou moins grande taille qui signifient les populations juives de ces territoires, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie montrent ces cercueils avec un chiffre en dessous qui est le nombre des communes, des juifs de ces communautés qui ont été exterminés. Effectivement, à ce moment-là, les Pays-Bas sont déclarés Judenfrei, libres de juifs.
Vous soulignez que les nazis avaient confié ce travail terrifiant à des responsables qui étaient recrutés souvent parmi des intellectuels du régime. La plupart des officiers, dites-vous, de ces commandos étaient titulaires d'un doctorat universitaire. Est-ce qu'il y a eu un choix de la part de l'état-major allemand ou des responsables allemands de prendre spécifiquement cette catégorie-là d'officiers pour diriger ces commandos?
Plusieurs théories existent là-dessus. Elles sont difficilement recoupables. Mais il est très clair qu'il s'agit certainement d'un choix. Il y a déjà un choix de confiance, c'est-à-dire qu'on confie effectivement ces commandos dont les activités sont top secrètes, et qui sont véritablement les commandos aux ordres de Heydrich d'une part et de Himmler d'autre part. Donc on est déjà vraiment dans la construction matérielle, programmatique du génocide. Et ce sont des hommes de confiance qui appartiennent au premier cercle issus de la SS et du SD autour de l'entourage de Heydrich.
Donc là, c'est pour le premier cercle, mais pourquoi des intellectuels de préférence? Enfin, apparemment.
Alors, déjà, il y a le fait que ces hommes, je pense à Arthur Nebe, je pense évidemment aux différents chefs suprêmes de la SS qui contrôlent sur le terrain ça. Il y a Erich von dem Barzelewski en Biélorussie, et il y a Friedrich Jeckeln d'abord en Ukraine, et ensuite mutés dans les Pays-Baltes. Ces hommes sont les principaux hommes de confiance de Heydrich, et donc ils ont tous eu des trajectoires universitaires assez impressionnantes. Ils ont tous des doctorats, et donc ce sont les meilleurs, tout simplement. Otto Rasch a deux doctorats, il veut se faire appeler docteur Rasch. Ce sont des philosophes, des historiens, des littéraires, souvent des spécialistes du droit allemand et principalement du droit racial. Ce ne sont pas, effectivement, et c'est ça, à mon avis, le sens de votre question, ce ne sont pas des tueurs nés. Ce ne sont pas, d'ailleurs, pour la plupart, aucun n'a jamais tiré un coup de feu avant de s'embarquer dans cette extermination. Ils n'étaient pas très prédisposés à devenir des assassins de masse du type Ollendorf qui a sur la conscience, lorsqu'il parle au tribunal de Nuremberg, 90 000 morts. Donc voilà, ils n'étaient pas, et c'est peut-être, c'est l'une des théories en vigueur, celle de Ingrao probablement et d'autres, que c'était volontaire de la part de la hiérarchie nazie que de prendre effectivement des gens qui n'étaient pas des tueurs, qui étaient surtout des intellectuels et qui étaient capables, dans leur usage de la rhétorique, de pouvoir mener leurs hommes vers cette mission exterminatrice.
Des hommes solides idéologiquement pour
tenir le choc. Extrêmement solides idéologiquement, extrêmement embrigadés dans l'appareil nazi.
Un mot de l'évolution des méthodes de tuerie. On peut dire qu'elles se sont malheureusement perfectionnées au fur et à mesure. Il y a une rationalisation des exécutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, bon, déjà on commence... Alors, il y a quand même une chose à dire, c'est que j'ai dit tout à l'heure qu'on commençait à tuer des hommes en âge de porter une arme. Cette phase-là se fait, on creuse des fosses, on fait creuser les fosses soit par des juifs qui seront eux-mêmes exterminés après, soit par des prisonniers soviétiques. On dispose par groupe de 5, de 10, ça dépend de la taille de la fosse, dans ces premiers pas comme ça de l'extermination des hommes qu'on assassine d'une balle dans le dos et qui tombent dans la fosse. Mais très vite, on va avoir affaire à des exécutions qui sont de plus en plus massives, puisque à partir de juillet-août 41, la décision est prise d'assassiner également les femmes et les enfants. Et là, donc, ce sont des juifs de tous sexes et de tous âges qui sont condamnés à mort.
Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé pour la déportation des pays d'Europe de l'Ouest.
C'est-à-dire oui.
On a commencé par les hommes et puis petit à petit.
Absolument. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, on a avant juillet-août une logique qui est sécuritaire. Les juifs sont supposés être des ennemis potentiels, et donc il faut les éliminer. Et donc ce sont les hommes qu'on cible. À partir de juillet-août, ce qui change, c'est qu'effectivement, il y a la volonté d'éradiquer totalement tous les juifs d'Europe de l'Est. Et donc là, on passe à une logique purement génocidaire, idéaliste, dit Christian Ingrao dans le film, c'est-à-dire que on passe de l'idée on tue l'autre pour se défendre à l'idée on tue les autres parce qu'ils gâchent notre rêve, parce qu'ils font tache dans le décor, et ce décor c'est le Lebensraum tel qu'on l'imagine et donc forcément Judenfrei tel que les nazis l'imaginaient.
3000 hommes seulement dans ces commandos pour organiser le massacre de centaines de milliers d'hommes, donc de femmes, d'enfants. Ça implique que les Allemands avaient mis à profit l'antisémitisme local pour recruter des supplétifs en très grand nombre. Alors vous estimez qu'il y avait environ, à partir de l'été 42 en tout cas, une proportion de 10 auxiliaires environ pour un Allemand.
Alors je m'aperçois en même temps que j'ai pas complètement répondu à la question précédente et je vais essayer de lier les deux. Oui, d'une part, effectivement, les techniques changent. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on assassinait devant la fosse très rapidement, et ça sous l'impulsion de Friedrich Jeckeln, le chef suprême de la SS en Ukraine, qui est un bon organisateur de massacres de masse. Il invente ce qu'on appelle la Sardinenpackung, c'est-à-dire qu'on fait s'allonger les gens directement dans la fosse, et on les assassine en marchant sur les cadavres d'une balle dans la nuque, et ensuite on fait venir un second groupe qui s'allonge tête bêche sur les cadavres, qu'on assassine de la même manière. C'est plus rentable, plus efficace et plus rapide, et c'est notamment cette technique qui sera utilisée dans le massacre de Babillard où 33 771 personnes sont tuées en deux jours.
Justement, ce qui est terrible dans le film, c'est qu'on voit tout ça, tout ce que vous dites, il y a des images pratiquement pour toutes les situations.
Je pense que chaque exécution de masse a été soit photographiée, soit filmée, donc ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on retrouve effectivement en très grand nombre des traces filmiques ou photographiques de ces exécutions de masse.
Alors, on va revenir là-dessus, sur comment vous avez pu mettre la main sur tout ça, mais encore un mot sur ces dirigeants des commandos, ces officiers. Il se trouve que, on le sait, il y a des conséquences psychologiques sur les bourreaux. Il y a plusieurs responsables des Einsatzgruppen qui demandent à être retirés de leur poste et qui sont victimes, on peut dire, d'un effondrement psychologique. On comprend évidemment comment on peut être effondré, mais en même temps, ça surprend. Ça surprend que ces personnages faits pour ce métier-là, idéologues totalement dévoués, se trouvent être tout d'un coup dans un état d'incapacité de poursuivre.
Oui, effectivement, les dommages psychologiques sont très rapides et la hiérarchie du RSHA en a absolument conscience dès le début des premières exécutions de masse. Et donc, il y a des consignes parce que ces gens sont des volontaires, dès lors qu'on sent effectivement des phénomènes de désordre psychologique, disons, ou d'une volonté des hommes sur le terrain à être réaffectés ailleurs ou à rentrer à Berlin, on leur donne la possibilité de le faire immédiatement et il n'y a aucune sanction contre, mais effectivement, à partir de 1942, tous les chefs de bataillon sur le terrain sont victimes de ces désordres psychologiques, des pressions, etc. Et tous font des retours à Berlin, soit provisoires, soit définitifs, y compris d'ailleurs quelqu'un comme Erich von dem Barzelewski, qui est lui le chef suprême de la SS en Biélorussie et qui est l'un des plus grands criminels de masse de l'histoire. Lui-même d'ailleurs subira une dépression de presque un an. Il sera rapatrié en Allemagne avant d'être renvoyé ensuite, cette fois-ci, pour liquider le ghetto de Varsovie. Donc bon, mais ces désordres et ces accablements psychologiques, ces dépressions sont à double tranchant parce que en fait, elles créent soit des dépressions, soit des actes d'une violence, d'une brutalité, dans le sadisme inouï. Et donc ça, c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire que ceux qui restent sur le terrain non seulement s'habituent aux exécutions de masse qui sont quotidiennes, ce sont des gens qui... C'est sûr que le premier choc pour ces bataillons, c'est à partir de juillet-août 41, le fait de devoir tuer des enfants, même des juifs déshumanisés, même réduits à l'état de vermine, eh bien tout de même, on a conscience que ce sont bien des enfants, des nouveau-nés parfois, et très souvent qu'il s'agit d'exécuter, et ça provoque des chocs évidemment émotionnels sur les bourreaux eux-mêmes. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, ces gens, même après cet effondrement psychologique, demeurent des assassins de masse, demeurent des nazis convaincus, et ceux qui n'y cèdent pas cèdent à d'autres choses, viol sur les femmes, sadisme, et tout ça on le retrouve en très très grande proportion à partir de 1942.
Alors on va aller vite parce qu'il faut parler un peu du film aussi, la manière dont vous avez procédé, mais un mot pour finir avec ces tueurs, à la Libération, relativement peu d'entre eux, peu nombreux sont ceux qui auront été condamnés.
J'ai eu la chance de rencontrer pour ce film Benjamin Ferencz, qui était le jeune procureur à l'époque de 27 ans. C'est lui qui a découvert les rapports des Einsatzgruppen, c'est lui qui a convaincu le tribunal de Nuremberg d'ajouter un procès pour juger de ces criminels-là. Seuls 24 seront amenés à comparaître parce qu'il fallait déjà qu'ils soient en détention et ensuite qu'on ait des charges suffisantes contre eux pour les inculper. Maintenant, il aurait pu y en avoir plus, seulement comme le dit, comme l'avoue Benjamin Ferencz, il n'y avait pas assez de chaises dans le prétoire et donc on n'a pas pu en faire comparaître davantage. Alors le souci, c'est pas le procès en tant que tel, qui s'est plutôt très très bien passé. L'instruction est saisissante de justesse et dans la présentation des preuves. Ce qui se passe ensuite, malheureusement, c'est que, une poignée d'entre eux seront, quasiment tous sont condamnés à mort. 4 sont exécutés. Les peines de prison. Enfin, les peines de condamnation à mort sont commuées pour tous les autres en peine de prison à vie. Et dans les années 50, tous sont remis en liberté. Mais ces procès n'ont concerné que 200 des 3000 membres des Einsatzgruppen, tous les autres, c'est-à-dire non pas les officiers qui, eux, effectivement, on avait les traces, leurs signatures sur les rapports, on a pu les faire comparaître. Sur l'exécution des peines, c'est une autre histoire. Mais sur les bataillons proprement dit, les tireurs proprement dit, on n'en a jamais su... les noms. Et donc, parce qu'on n'a pas retrouvé les listes, et donc tout cela, c'est-à-dire tous les tueurs sur le terrain dont on ignorait les noms, ont retrouvé un travail ensuite en Allemagne fédérale et sont pour la plupart, eh bien, ils ont réintégré leur corps d'origine qui était la gendarmerie et la police.
Alors, ce qui frappe vraiment dans votre documentaire, c'est, on le disait, c'est ce grand nombre d'archives dont on dispose, photographiques, mais aussi filmiques, et ça rend parfois ces images absolument insoutenables, évidemment. Comment vous avez choisi ces archives? Est-ce que vous avez montré tout ce qu'il y a, ou il y en a encore beaucoup d'autres?
Non, j'ai pas montré tout ce qu'il y a, il y en a énormément.
Alors, qu'est-ce qui filme là, par exemple, ce genre de les massacres à ce moment-là?
Les photographies des massacres sont toujours le fait des nazis eux-mêmes. Toujours. À quelques petites exceptions près, mais qui, je pense par exemple à l'image de l'opération 1005 dans le film À venir, où ça a été découvert par les soviétiques une fois que les nazis ont dû très rapidement libérer le terrain, parce que le vent tournait. Mais pour ce qui est des exécutions de masse, elles sont toutes prises par les nazis, ces photos, mais il y en a de deux catégories. Il y a une catégorie qui sont ces photos officielles, si on peut dire, même si elles étaient top secrètes, elles étaient jointes au rapport des Einsatzgruppen envoyés à Berlin au RSHA. On en a un exemple très clair dans le film qui sont ces photos qui témoignent de l'exécution des juifs de Liepaja sur la plage de Skede, commentées par l'un de mes rescapés, qui est Edward Anders. Ce sont typiquement ce type de photos, des photos officielles, où les nazis prennent l'habitude, par exemple, de faire poser les victimes avant qu'elles soient exécutées. Il y a une facture comme ça, typiquement nazie, de ce type de photos. Ça, mais ces photos-là, on les a retrouvées, mais elles ont pour la plupart été détruites, comme l'ont été une grosse masse de ces rapports des Einsatzgruppen. Et donc, il en reste certaines qui ont pu être sauvées de la défaite allemande. Maintenant, il y a une autre catégorie de ces photos. Les nazis qui participaient aux actions d'extermination n'avaient pas le droit de prendre des photos, et pourtant ils en prenaient à l'insu de leur hiérarchie. Ils les gardaient pour eux, ils les échangeaient sur le front ou ils les envoyaient à leur famille. Et donc on a sur ce type d'image là, si vous voulez, des images nazies prises par les SS eux-mêmes, mais à l'insu de leur hiérarchie. Je pense qu'elles ont été prises parce que les SS avaient un avantage technologique sur ce qui est de la photographie considérable à l'époque. Et tous les nazis sur le terrain étaient munis de petits appareils photo. Ils ont tout photographié.
Alors, et les films, parce que c'est la force aussi du documentaire, on voit vraiment des films.
Oui, alors les nazis prenaient plaisir aussi à filmer leurs exactions.
Là, c'est des images inédites hein, pour la plupart.
Totalement inédites, et elles ont été récupérées, toutes celles-ci, ou quasiment toutes, dans les pays de l'Est, que ce soit à Moscou, à Riga, c'est-à-dire dans ces terra incognita, dans ces banques d'archives qui nous sont encore très étrangères. Et pour les retrouver, j'ai bénéficié de l'aide de Christine Sniege, qui est une documentaliste qui a travaillé avec moi pendant ces deux années, vraiment au corps à corps. Elle a l'avantage d'être lettonne, de parler toutes les langues de la région, de savoir où les choses se trouvent. Et on a passé un temps infini à défricher toutes ces banques d'archives des pays de l'Est, et on a trouvé des choses incroyables.
Une autre grande force du film, c'est que vous avez pu retrouver, interviewer trois, notamment bourreaux nazis. Comment vous les avez retrouvés
et en réalité, beaucoup plus. Tous ne sont pas dans le film, bien entendu. Chaque témoin, j'ai envie de dire, est l'objet d'une histoire et d'un travail particulier. Il n'y a aucun rapport, si vous voulez, dans le modus operandi qui m'a permis de retrouver le fameux tireur lituanien qui intervient dès le début du second film. Tireur lituanien, donc, qui est un lituanien envoyé en Biélorussie pendant 6 mois pour exterminer quotidiennement des femmes et des enfants, et qui témoigne face caméra sur la manière dont il pratiquait ces exécutions. Voilà, lui je l'ai trouvé par mon fixeur lituanien sur place qui s'appelle Saulius Berzinis, qui a énormément travaillé sur le génocide, mais en Lituanie et en Lituanie seulement. Maintenant, pour les Allemands, c'est une toute autre histoire. Effectivement, on a retrouvé des listes, une liste d'un procès de Hambourg des années 60, où ces gens avaient été amenés à comparaître, non pas en tant qu'accusés, mais en tant que témoins, alors qu'en fait ce sont tous des criminels de masse. Maintenant, ils n'habitaient pas encore aux mêmes endroits, il a fallu faire une enquête assez poussée pour les retrouver, et ensuite pour aller les filmer, mais en caméra cachée, parce que j'avais fait cette mauvaise expérience en Ukraine que de rencontrer des supplétifs et des collaborateurs, mais une fois devant moi, une fois devant une équipe étrangère, eh bien, leur témoignage était travesti, mensonger, bref, ça ne donnait strictement rien, et je me suis dit en rentrant que pour les nazis en Allemagne, il était impossible de procéder de la même manière, et j'ai préféré effectivement aller les voir en caméra cachée, sous une fausse identité.
Il faut s'arrêter là, malheureusement. Michael Prasan, j'ajoute tout de même que l'une des forces de votre film et l'intérêt de votre film, c'est de montrer comment cette extermination des Juifs à l'Est doit être lue et comprise avec également les camps de déportation qu'on connaît beaucoup mieux donc en Pologne, et que tout cela fait une seule histoire et qu'on comprend les deux éléments éclairent, s'éclairent l'un l'autre. Je crois que c'est une des forces de démonstration de votre œuvre. Il y a un DVD qui est sorti déjà.
Absolument.
Voilà. Et donc, évidemment, je renvoie pour la deuxième partie à jeudi prochain sur France 2 de votre documentaire. Et puis donc, on peut se procurer le DVD pour voir l'ensemble de cette œuvre. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve
merci beaucoup, merci
pour
à vous.
Un nouveau numéro de Mémoire.